pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Axel.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 12 décembre et aujourd'hui, nous allons parler d'un des organes les plus précieux de notre corps, l'œil.
De son fonctionnement complexe à son évolution au fil de la vie, en passant par les différentes pathologies qui peuvent le toucher, nous tenterons de comprendre au mieux ce qu'est l'œil.
Et pour en parler, nous serons avec Jean-Claude Quintin, chef du service ophtalmologie du CHU de Caen, et Benoît Gandon, ophtalmologiste à l'hôpital de Falaise.
Mais avant ça, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. Et on commence avec l'Union Européenne qui se met d'accord pour encadrer l'intelligence artificielle. C'est une grande première.
Et oui, cet accord est qualifié d'historique. Il intervient après 3 jours de négociations. Des règles vont être imposées, en particulier pour les IA dites génératives comme ChatGPT. Le but, s'assurer de la qualité des données utilisées dans la mise au point des algorithmes, mais aussi de vérifier qu'ils ne violent pas la législation sur les droits d'auteur.
Mais cette mesure, elle peut aussi inquiéter sur un potentiel frein à l'innovation.
Oui, c'est ce qu'on peut imaginer. Certains États membres craignent qu'une trop grande régulation ne freine les innovations en cours, comme Aleph Alpha en Allemagne et Mistral AI en France. D'ailleurs, chez nous, le ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, déclare « Nous allons analyser attentivement le compromis trouvé aujourd'hui et nous assurer dans les prochaines semaines que le texte préserve la capacité de l'Europe à développer ses propres technologies d'intelligence artificielle et préserve son autonomie stratégique. » C'est désormais acté, une nouvelle instance scientifique vient d'être créée par l'exécutif, le Conseil présidentiel de la science.
Emmanuel Macron vient de l'annoncer devant une assemblée réunissant 300 chercheurs et entrepreneurs jeudi dernier, un conseil composé de 12 membres, parmi eux 2 prix Nobel, celui d'économie Jean Tirole et celui de physique Alain Aspect. 12 membres pour 12 domaines scientifiques, de la microbiologie à la sociologie, en passant par l'écologie, la plupart des disciplines y seront représentées. Ce conseil, il s'inscrit dans la droite lignée des différents comités qui ont aidé le gouvernement. Il remplace le COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, qui lui-même avait succédé au conseil scientifique Covid-19.
Et quel est l'objectif de ce conseil alors ?
Il a d'abord pour but de rapprocher scientifiques et politiques autour de questions communes et de problématiques qui touchent directement les décisions gouvernementales. Il s'agit donc pour l'exécutif de pouvoir disposer d'un aiguillage spécifique pour chaque domaine. Un conseil qui devra faire ses preuves et dont l'efficacité et l'utilité seront davantage visibles sur le long terme, comme le précise l'ophtalmologiste José-Alain Sahel, un des membres du conseil présidentiel de la science. 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée, c'est la conclusion de l'observatoire européen Copernicus. Le record de 2016 est dépassé de 0,13 degrés et il faut s'attendre à ce qu'il soit battu régulièrement.
Et oui, c'est le constat malheureux de Carlos Buntempo. Il est climatologue et directeur de Copernicus. Pour lui, rien ne changera tant que les concentrations de gaz à effet de serre continuent d'augmenter et de nombreuses conséquences sont à attendre. Qui dit température plus chaude dit fonte de la banquise et hausse du niveau de la mer, mais aussi augmentation des sécheresses et donc des incendies. Souvenez-vous de ceux qui ont ravagé et continue de ravager le Canada.
Mais alors, comment est-ce qu'on peut régler le problème ?
Eh bien, pour Carlo Buontempo, comme pour de nombreux chercheurs, une seule solution, atteindre la neutralité carbone le plus rapidement possible. Ça veut dire, entre autres, une sortie des énergies fossiles, un enjeu au cœur des discussions qui se tiennent jusqu'aujourd'hui à Dubaï à l'occasion de la COP28. On rappelle d'ailleurs que 116 pays viennent de s'engager pour tripler les énergies renouvelables, mais le défi s'annonce encore compliqué. Des pays comme la Chine, la Russie ou l'Inde n'ont pas pris part à l'engagement. C'est une mauvaise nouvelle, Axel, le niveau de CO2 atteint un nouveau record.
Oui, il augmente, ce n'est pas à nouveau, mais cette fois-ci de manière explosive pour atteindre un taux jamais vu, celui que la Terre possédait il y a 14 millions d'années, bien avant l'époque des Australopithèques. En ce début du mois de décembre, la concentration de dioxyde de carbone atteint ce niveau avec 420 parties par million. Cette unité de mesure, elle permet de savoir combien de molécules de polluants on trouve sur 1 million de molécules d'air, et donc de connaître le taux de pollution dans l'atmosphère. Et là, on se rend compte que cette concentration actuelle, elle équivaut à des niveaux 2 fois supérieurs à ceux de l'ère pré-industrielle. Pour rappel, le CO2, c'est un gaz à effet de serre qui emprisonne la chaleur dans l'atmosphère, ce qui cause peu à peu un réchauffement de la planète.
Est-ce qu'un tel pic est déjà arrivé auparavant ?
Oui, bien sûr, le taux de CO2, il n'augmente pas depuis hier. Le dernier record en date, c'était en juin 2022. Il avait atteint un niveau semblable à celui d'il y a 4 millions d'années. Vous voyez qu'on est passé de 4 à 14 en l'espace d'une seule année, ce qui est complètement inédit. dans la nuit de jeudi à vendredi. Si vous avez de la chance d'avoir un ciel dégagé, vous allez sans doute pouvoir apercevoir les Géminides.
Et oui, les Géminides, ce sont l'une des plus belles et plus lumineuses pluies d'étoiles filantes. En fait, on peut les observer depuis le 4 décembre, mais c'est bien ce jeudi qu'elles vont atteindre leur pic de visibilité. Vous pourrez contempler plusieurs dizaines d'étoiles filantes par heure.
Et ces Géminides, on peut les observer avec les yeux, mais aussi avec du matériel astronomique.
Et ça permet d'encore mieux les admirer. Si vous disposez d'instruments adéquats, il vous suffit de trouver la constellation des Gémeaux. Même si elles apparaissent partout dans le ciel, c'est dans cette zone que vous êtes plus susceptible de les apercevoir. Et pour repérer la constellation des Gémeaux, le magazine Science et Avenir a publié sur son site une carte du ciel qui peut vous aider.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est l'un des organes les plus importants du corps humain. Il nous permet de percevoir l'un de nos cinq sens, la vue. Je parle bien sûr de l'œil.
Mais l'œil est aussi un organe fragile, souvent abîmé par des maladies, des blessures, mais aussi par le temps.
Et pour tout comprendre de cette partie du corps fascinante, nous recevons aujourd'hui Jean-Claude Quintin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service ophtalmologie du CHU de Caen et vous êtes accompagné de Benoît Gandon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ophtalmologiste à l'hôpital de Falaise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se compose un œil? Qu'est-ce qui le constitue?
Bien sûr, alors d'avant en arrière, classiquement, on vient retrouver en premier la cornée, qui est la partie transparente, comme le pare-brise de l'œil. Ensuite, vous avez la partie colorée, qui s'agrandit ou qui se rapetit en fonction de la lumière, l'iris. Derrière, vous avez le cristallin, une lentille qui se bombe pour voir en fonction de la distance des objets. Et tout au fond, quand on parle de fond d'œil, on arrive sur la rétine, donc quand on a les yeux rouges sur une photo par exemple, et vous avez ensuite le petit câble qui envoie les informations derrière, le nerf optique, pour envoyer au cerveau.
Alors comment est-ce que se forme la vision concrètement avec ces différentes parties de l'œil?
Alors finalement, c'est très intéressant parce que ça fait appel à plein de connaissances scientifiques, j'allais dire. Le photon arrive, il va traverser tout ce qui est transparent dans l'œil, hein, Benoît l'a dit, la cornée, le cristallin. Il va traverser aussi les différentes couches de la rétine et va arriver sur le photorécepteur et précisément sur un pigment, une molécule qui s'appelle le plus souvent la rhodopsine, ça dépend des longueurs d'onde, mais la rhodopsine. Et cette énergie qui va être propulsée sur cette molécule, la molécule va changer de configuration et ouvrir des canaux. Les fermer. Habituellement, ça les ouvre, mais dans l'œil, ça les ferme. On ferme les canaux et ça va entraîner une hyperpolarisation. Donc, un phénomène lumineux va entraîner un phénomène chimique, puis un phénomène électrique. Il va y avoir différents codages. C'est ce qui est intéressant aussi au niveau de l'œil, c'est que c'est un micro-ordinateur. C'est pas juste une transmission du signal lumineux au cerveau. Déjà, il y a un codage d'informations. C'est pour ça que c'est très difficile de faire des prothèses oculaires. Ça n'existe pas encore. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Et donc, ce signal électrique est transmis aux différentes régions du cerveau, notamment au niveau occipital.
Donc ça, c'est la zone concernée, l'occipital dans le cerveau. Mais finalement, du coup, on est sur un fonctionnement qui est quand même, on pourrait presque dire, très chimique, en fait.
Chimique et électrique. Voilà, c'est tout un lien.
Alors, il y a aussi la pupille, vous en parliez, Benoît Gandon. Pourquoi est-ce qu'elle se dilate et quelle est l'utilité de cette dilatation?
Alors, en fonction de la lumière, en fait, si vous allez avoir quelque chose de très... par exemple, on a à l'extérieur beaucoup de soleil, elle va devenir toute petite pour laisser passer un minimum de lumière pour pas qu'on soit ébloui et qu'il y ait trop d'informations au niveau des photorécepteurs. Et puis, au contraire, quand on va être dans la nuit, il va falloir stimuler au maximum notamment nos bâtonnets, qui sont, parce qu'on en a pas parlé tout à l'heure, mais dans la rétine, on a les bâtonnets et les cônes, les bâtonnets qui sont pour la vision on va dire clair-obscur, et donc on va avoir une pupille qui devient très très grande pour avoir le maximum d'informations à transmettre à notre cerveau.
Quand on pense à l'œil, on pense aussi parfois aux larmes. Pourquoi est-ce qu'elles apparaissent? À quoi ça sert d'avoir de l'humidité comme ça dans l'œil?
Ça sert à protéger l'œil surtout, hein, parce que face aux agressions extérieur, l'œil doit être toujours humide. Et d'ailleurs, c'est un grand problème. On a des patients qui n'ont pas assez de larmes. Et là, c'est très dangereux parce que l'œil sèche, la cornée s'abîme et se creuse et peut y avoir un trou dans l'œil. Donc ça, c'est un lubrifiant, on va dire.
Et c'est quoi qui fait que certaines personnes vont justement avoir moins d'humidité dans l'œil? Ça peut être causé par quoi?
Il y a des maladies générales, hein, des xérostomies par exemple. Hein, on sécrète moins de larmes. Les larmes, c'est un amalgame de liquide, de lipides aussi, pour éviter l'évaporation, et puis un peu de mucus pour que ça adhère.
Et quelles sont les spécificités de l'œil humain par rapport aux yeux de certains animaux? Est-ce qu'on peut différencier?
Par exemple, au niveau déjà de la vision binoculaire, on est plutôt un prédateur, on va dire. Donc on a les deux yeux en face avec un champ de vision de 180 degrés. Et nos proies, on va dire, qui sont pas carnivores, plus herbivores, ils vont avoir un champ de vision très latéral, mais avec un œil de chaque côté, en fait. Donc ça, c'est une première différence. Ensuite, on peut voir, par exemple, des animaux, quand on les éclaire la nuit comme les chats, un reflet dans leurs yeux. Et ça, ça s'appelle tapidum locidum, c'est-à-dire c'est une sorte de miroir qui va renforcer le signal lumineux. Donc voilà, c'est des petites spécificités. Le principal, je pense, c'est la vision binoculaire.
Oui, puis on va faire tomber des mythes. Hein. Le taureau, il voit en noir et blanc. En fait, il est attiré par le mouvement. Alors si vous ne bougez pas, il ne va pas se ruer sur vous. La muleta qui est rouge, hein, non, ça ne sert à rien. Il y a des choses assez intéressantes. La mouche, elle voit sur 360 degrés et surtout, elle voit 200 images par seconde. Nous, après 24 images, pour nous, c'est un continu. Donc, on voit que 24 images. La mouche, c'est 24. Les animaux domestiques, nos chats, nos chiens, ils ne voient pas les mêmes couleurs que nous. Hein, ils ont que deux sortes de pigments. Nous, c'est rouge, vert, bleu. Eux, c'est plutôt bleu, jaune, bleu et jaune.
Et on arrive à savoir comme ça, sur les animaux précisément, quel est l'état de leur vision, quelles sont les couleurs qu'ils voient, on peut savoir précisément, ou il y en a encore pour qui on ne sait pas trop?
Sur les animaux communs, on sait, hein, on a beaucoup de tests, hein, y a pas de... Oui, c'est certain.
Et à l'inverse, on parlait tout à l'heure des performances de l'œil humain que n'ont pas forcément certains animaux, mais à l'inverse, il y a des capacités qu'on n'a pas, comme la vision nocturne. Pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à voir dans le noir?
Nous, on est un animal, on va dire, qui a plutôt beaucoup de cônes, qui va voir bien en vision journalière.
Donc les cônes, ils servent à voir
couleurs. Donc les trois types de cônes qui sont rouge, bleu et vert. Et on voit que ça va faire un mélange et on va pouvoir voir en couleur. Et donc les animaux, eux, ils vont avoir plutôt, notamment les chats, les chiens, comme on disait, plutôt des bâtonnets. Donc ils vont voir clair-obscur, un peu moins de couleurs, ce qui leur sert plus en fonction de leur mode de vie. Tout ça, c'est une adaptation au fur et à mesure des années.
Les bâtonnets, c'est pour la luminosité, c'est ça?
La luminosité, contraste, clair, obscur, voilà, exactement.
Et qu'est-ce qui fait, pardon, qu'on va être capable de distinguer ces couleurs?
Donc, oui, c'est un mélange de pigments, en fait. Hein. Les longueurs d'onde réagissent avec la petite molécule qui différencie bleu, rouge, vert, et puis on fait un mélange et on a notre panel. Mais on parlait des animaux, par exemple l'aigle, on ne parle pas de l'aigle, mais l'aigle, il est un peu comme nous, il voit précisément, mais il voit beaucoup plus précisément, il a beaucoup plus de cônes, les cellules réceptrices à la vision, et il voit des proies à 1 km par exemple.
Mais est-ce qu'à l'inverse, ça c'est une capacité qu'il a, mais est-ce que ça va peut-être empêcher d'autres capacités que...
Il ne voit pas bien la nuit lui.
Ouais.
Donc, pas du tout.
C'est compliqué, on peut dire entre guillemets que ouais, voilà, la vision parfaite n'existe pour aucune espèce.
Tout à fait.
On se spécialise, moins on est large dans notre... Oui, c'est ça, notre utilisation, hein, c'est toujours pareil.
Et malgré tout, sur la question des couleurs, il y a certaines personnes humaines, du coup, qui ont une perception des couleurs qui est altérée, je pense, évidemment, aux personnes atteintes de daltonisme. C'est dû à quoi, ce défaut?
Alors là, il n'y a pas d'égalité, hein, c'est plus souvent les garçons, parce que c'est porté par le chromosome X, et c'est l'allèle du vert et l'allèle du rouge qui est porté par le chromosome X. Donc si on a soit pas assez de pigments, soit pas du tout de pigment, soit un pigment qui ne fonctionne pas, ben on voit des couleurs un peu différentes. On voit quand même le rouge, mais ce n'est pas la même tonalité de rouge. Vous avez deux objets, un qui est complètement rouge et l'autre rouge et vert. Celui qui n'a pas de pigment vert, il verra la même couleur.
Les allèles, c'est
les parties du chromosome.
D'accord.
C'est toutes les petites parties du chromosome.
Et est-ce qu'il existe différents types de daltonisme? Est-ce qu'on peut les classer?
Bah, tout à fait. Donc, déjà, le daltonisme, ça vient de John Dalton. Vous avez dû voir, qui est un des premiers à publier sur le sujet. Et lui, justement, il était une forme de daltonisme où il lui manquait les cônes surtout vert. Voilà, le type 2, donc deutéranopie. Puis ensuite, on va avoir ceux qui ont plutôt l'anomalie du rouge, donc la protanopie. Et ceux du vert, le bleu, ça va être la tritanopie. Et après, il y a le cas extrême où on n'a aucun cône. Et donc là, on est achromate, aucune couleur. Bon, ça, c'est
complètement noir et blanc, du coup.
Ça représente une petite part des daltoniens.
Oui, mais c'est en fait, voilà, c'est très rare.
1 sur 40 000.
D'accord, oui.
C'est peu, en effet. On continue de parler de l'œil avec vous, Jean-Claude Quintin et Benoît Gandon. Mais avant, on va faire une petite pause musicale. Écoutez Quand la nuit tombe de Marguerite Thiam. À tout de suite dans C'est pas faux.
Néant dans les yeux, car j'ai tout dans la tête. L'idée, c'est rentrer dans le jeu pour s'enfuir de soi-même. Suffit pas d'un meuf, suffit pas d'un parage, mélange les deux, excité par leur aveugle irréparable. J'ai pas fini de grandir, j'ai déjà tout oublié. À peine 15 piges, la vie entière pour me bousiller. Des stars me préparent des traces, je suis la nouvelle petite qu'ils adorent. Des stars mettent mon nom sur le disque pour m'offrir la mort. Pour me faire l'amour, c'était déjà des hommes lorsqu'on m'a mise au monde. Pour m'offrir la mort, pour me faire l'amour, c'était déjà des hommes lorsqu'on m'a mise au monde. Quand vient la montée de MDMA, on devient tous les mêmes. Ouais, ça ferme là, aime-moi. 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 Putain, je sais pas où je suis. Dans moi-même, le seum nourrit ma haine. La violence pour affronter ma peine. Regarde-moi, j'ai tout ce qu'ils veulent. Mais je suis juste perdu seul dans un monde si chême. Comme si j'avais tout vécu. Ces gens me surprennent peu. Pourtant j'ai l'air plus bête qu'eux. Je mélange les deux. Je m'aime si je me suis à m'offrir la mort. Me faire l'amour. C'était déjà des hommes lorsqu'on m'a mise au monde. Pour m'offrir la mort, pour me faire l'amour. C'était déjà des hommes lorsqu'on m'a mise au monde. Quand vient la montée de MDMA, on devient tous les mêmes. Ouais, ça ferme là, aime-moi. 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 Putain, j'ai pas.
C'est Quand la nuit tombe de Marguerite Thiam. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Et nous sommes aujourd'hui avec Jean-Claude Quintin, chef du service ophtalmologie du CHU de Caen, et Benoît Gandon, ophtalmologiste à l'hôpital de Falaise. Ensemble, on parle de l'œil et de son fonctionnement. Alors, au niveau des pathologies courantes qui touchent l'organe oculaire, on parle souvent de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatisme. Ça correspond à quoi ?
Alors, ce sont des anomalies réfractives. On va les prendre dans l'ordre. La myopie, ça va être un œil un petit peu trop long. De ce fait, les rayons lumineux ne vont pas converger sur la rétine de façon très focalisée. Et on va être obligé d'avoir une paire de lunettes ou des lentilles pour pouvoir remettre les rayons lumineux au bon endroit et avoir un signal bien net. Voilà, l'hypermétropie est un peu le contraire. Un œil un peu court. Pareil, qui va se compenser. Et l'astigmatisme, pour finir, lui, c'est pas un problème de longueur, c'est plus un problème, pour parler trivialement, de déformation du pare-brise. On disait la cornée, voilà, si elle est pas tout à fait sphérique, on va avoir les rayons lumineux qui vont être déviés de façon différente et on va devoir aussi adapter pour avoir une meilleure vision. Voilà.
En fait, l'astigmatisme, c'est un ballon de rugby au lieu d'un ballon de foot, hein, voilà, au niveau de l'œil. Et sinon, il y a des corrections. Et ce qu'on parle beaucoup, c'est de la chirurgie réfractive. Et finalement, un œil trop long, on le rabote. On rabote par devant, on fait des mesures hein, pour ne pas trop le raboter. Voilà. Et sinon, l'hypermétropie, on va faire un petit cercle comme, autour pour faire avancer un peu le devant de l'œil.
Mais donc globalement, les impacts concrets sur la vision, ça va être quoi ? C'est pour la myopie, c'est qu'on voit moins bien de loin, c'est ça ?
La myopie, on va avoir une vision de loin qui est floue, mais une vision de près qui est toujours conservée, même avec l'âge. L'hypermétrope, lui, ça va être quelqu'un qui peut accommoder, donc c'est-à-dire le cristallin, il va pouvoir le bomber pour pouvoir faire la mise au point, mais ça va entraîner de la fatigue. Quand l'hypermétropie est trop élevée, on ne peut plus le compenser, mais c'est plutôt des jeunes, on va dire, qui vont y arriver à voir net malgré ça. Et puis l'astigmatisme, il y a des gens qui peuvent le tolérer très bien sans lunettes. Ça peut dépendre, mais avec l'âge, on a du mal à le compenser. Et ça fait aussi des douleurs, de la fatigue, des phares la nuit qui sont déformés. Donc on finit par adapter en correction optique aussi, finalement, toutes ces amétropies.
Et moi qui suis un petit peu plus vieux que vous, il y a aussi ce qu'on appelle la presbytie. C'est le cristallin qui a la capacité de modifier sa puissance, qui avec l'âge n'arrive plus à modifier cette puissance et on n'arrive plus à voir de près. Et c'est pour ça que tout le monde porte des lunettes à un moment de sa vie.
Donc il y a une difficulté d'accommoder, c'est ça, pour pouvoir voir de manière près. Plus nette.
Okay. Et quelles sont les zones de l'œil qui sont directement touchées par ces pathologies ? Le défaut, il est sur quelle zone de l'œil ?
Alors ça va dépendre, la myopie, une longueur axiale trop importante, ça va surtout avoir des conséquences au fond de l'œil, sur la rétine, ça va l'étirer et on va avoir plusieurs types de problèmes qui peuvent se présenter, notamment des déchirures de la rétine. La rétine c'est comme du cellophane au fond de l'œil qui fait 300-400 microns et donc si on l'étire ça peut faire plus facilement des déchirures, donc avec risque de décollement de rétine et de cécité. Hein. On peut avoir des néovaisseaux du myope fort, on peut avoir des ruptures de la membrane de Bruch, tout ça c'est des noms un petit peu barbares, mais pour dire que le fait d'avoir un œil trop long, ça implique des conséquences qui peuvent être néfastes à partir de 6 dioptries de longueur axiale, donc soit de puissance 26 mm.
28 mm.
Et est-ce que ces pathologies, elles sont susceptibles de se déclencher à tout âge ?
Vous parliez tout à l'heure de la presbytie comme, entre guillemets, une pathologie de plus vieux, mais sur les autres pathologies.
Alors la myopie, à tout âge, mais il y a ce qu'on appelle la myopie maladie, déjà dès l'enfance. Et donc déjà, on peut en parler parce que c'est un fléau, la myopie. Notamment, on voit dans les pays asiatiques, avec la vision de près, les tablettes, les ordinateurs. À noter que les dernières études montrent qu'on peut regarder les tablettes, on peut jouer, mais à l'extérieur. C'est vraiment quand on est confiné à l'intérieur, à une lumière artificielle, que ça crée la myopie. Et donc il y a une myopie qu'on appelle une épidémie là, de myopie qui arrive.
Oui, c'est vraiment... Alors j'imagine que c'est un facteur accélérateur, que même sans ça, on peut aussi déclencher la myopie. Mais il y a de plus en plus de facteurs extérieurs qui amènent à ce que des gens aient des pathologies au niveau des yeux.
C'est surtout la lecture de près. Non, c'est vraiment ça, c'est pas trop l'environnement. Et bien sûr, le caractère familial. Hein.
Oui, il y a de la génétique.
Hein.
Au niveau des soins qu'on peut apporter, on évoquait un peu tout à l'heure le port de lunettes. En quoi est-ce qu'elles permettent de corriger la vue ? Et j'imagine que selon la pathologie, c'est aussi très différent.
Tout à fait. Donc, les lunettes, ça, on met l'inverse de la modification. Donc, c'est des verres convexes ou concave, qu'on interface juste devant l'œil.
Et l'opération, elle peut aussi être une solution dans certains cas. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'on pourrait imaginer des patients opérés justement parce qu'ils sont myopes, parce qu'ils sont hypermétropes ?
Oui, tout à fait. C'est la chirurgie réfractive, ça fait maintenant quelques années qu'on la pratique. Il faut savoir que ça va résoudre le problème réfractif, c'est-à-dire qu'on va retrouver une vision sans correction optique, mais ça ne va pas empêcher les problèmes au niveau longueur de l'œil, tout ce qu'on disait. Évidemment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour se passer de lunettes. Donc on vient travailler sur la cornée et on vient... parler encore une fois trivialement, comme tailler le verre de lunettes à l'intérieur du pare-brise, à l'intérieur de la cornée. Et ça marche très bien, les résultats sont...
Par contre, il faut que la pathologie ne soit plus évolutive. Si on change de lunettes tous les ans, ça ne sert à rien de faire l'appel à la chirurgie. On continuera à changer
ça,
de lunettes.
Ça reviendra. Voilà. Mais du coup, finalement, les opérations, c'est quand même plus entre guillemets pour le confort et éviter simplement le port des lunettes. Ou est-ce que vraiment, des fois, le port de lunettes ne peut plus rien faire et c'est un stade supérieur, l'opération ?
Non, si on est au point où les lunettes ne corrigent plus, c'est pas la chirurgie de la rétine, il y a d'autres chirurgies intraoculaires. Par exemple, on peut changer le cristallin et mettre un cristallin de bonne puissance pour cette longueur de l'œil. Ça arrive.
Et à l'inverse, à quoi est dû le fait d'avoir une bonne vision, une vision parfaite ? On parle souvent de la vision 10 sur 10 à chaque œil. Est-ce que c'est inné, par exemple, ou est-ce qu'on, par exemple, peut avoir aussi un patient qui a une vision de 8 ou 9 sur 10, qui pourtant n'est pas myope ni hypermétrope ? Comment ça se passe ?
On est très inégaux là-dessus. On a des patients qui peuvent voir 12, 4, 15, 16 sur 10.
On peut dépasser le 10 sur 10.
C'est une puissance. C'est-à-dire 10 sur 10, c'est une différence entre deux points qui peuvent être vus à une certaine distance. Donc on peut très bien 20 sur 10. Il y a pas de limite.
C'est pas une note en fait. Voilà.
C'est pas une note. C'est une distance entre deux points à une certaine distance. Et on est très inégaux. Il y en a sans correction optique qui peuvent effectivement avoir 8, 9. Malheureusement, on peut rien faire. Et puis d'autres qui ont 16, ça c'est la nature.
Et qui pourtant n'ont pas atteint de pathologie.
Aucune anomalie intraoculaire, tout à fait.
Et c'est quelque chose de fréquent où quand même globalement la plupart des gens sont en dessous du 10 sur 10.
Une courbe de Gauss comme d'habitude.
Oui, mais 10 sur 10, c'est la plupart des gens.
Ah oui,
d'accord. 10 dixièmes, oui.
Et pourquoi est-ce que la fatigue peut altérer la vision ?
On revient sur l'hypermétropie. Souvent, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de lunettes et qui, en fait, s'ils venaient nous voir, on pourrait leur mettre une petite correction. Donc, ils sont capables de contracter leurs muscles, de faire bomber leur cristallin pour faire la mise au point. Puis, arrivé à un certain moment, si on passe notre journée sur l'ordinateur à avoir contracté nos muscles, ben, on va avoir de la fatigue comme quelqu'un qui aurait fait trop de sport. Voilà, c'est exactement la même chose, la même image.
Est-ce que cette fatigue, elle peut être durable?
Alors,
ou elle est juste temporaire sur quelques heures ou...
Voilà, il n'y a pas de risque pour l'œil, hein, c'est de la fatigue, c'est-à-dire que ça ne va pas dégénérer, on ne va pas avoir une perte de vision de ce fait-là, mais c'est très inconfortable, donc il faut consulter, et puis éventuellement, des fois, on confie à nos confrères orthoptistes qui peuvent faire aussi de la rééducation visuelle pour muscler ses yeux. Hein.
Alors, comme la plupart des parties du corps, l'œil, c'est un organe qui vieillit. Comment ça se passe, ce vieillissement, et quelles sont les conséquences ?
Alors, le vieillissement le plus connu, c'est la formation de la cataracte. C'est cette lentille qu'on appelle cristalline qui devient opaque, hein, avec l'âge, et qui altère d'abord la vision des couleurs. D'ailleurs, l'anecdote, c'est les périodes bleues des peintres, hein, vous le savez, c'est le peintre avant et après chirurgie de la cataracte. Parce que la courte longueur d'onde, c'est le bleu, qui est très vite abîmé. Enfin, non visible. Donc, on l'opère de la cataracte et après, on voit tout en bleu. Je caricature. Mais donc, la cataracte, la première chirurgie la plus pratiquée en France. Hein. Donc, c'est un vieillissement, quelques-uns disent physiologique, pour protéger un peu la rétine des lumières, parce que la rétine vieillit aussi. Mais il y a d'autres pathologies qui est très connue pour les patients âgés. C'est ce qu'on appelle la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est un vieillissement anormal du centre de l'œil, qui est maintenant bien traité dans sa forme vasculaire.
C'est le fameux test qu'on voit souvent où on se cache l'œil. Exactement. Et l'attache noire qui apparaît.
Et où des déformations visuelles. Voilà.
Comment est-ce qu'on peut bien entretenir ses yeux ? Est-ce qu'il y a des bons réflexes à avoir ? Ou à l'inverse, des habitudes à éviter ? On parlait tout à l'heure des écrans en intérieur.
Un peu des consignes bateau, mais ne pas fumer déjà, c'est un critère qu'on sait très délétère pour la vision, notamment pour la DMLA.
Pourquoi est-ce que ça impacte l'œil ? Quel est le lien entre la consommation de tabac et la...
Le tabac a une multitude d'effets nocifs dans la composition. On va avoir une moins bonne oxygénation des tissus, on va avoir des matières toxiques en elles-mêmes. Donc voilà, aussi un bon conseil, de toute façon, il ne faut pas fumer, mais pas que pour l'œil. Ça, c'est très bateau. Et puis ensuite, on va avoir l'alimentation pour apporter des nutriments à nos cellules, donc poissons, fruits, légumes. Dans certains cas, on conseille à nos patients de prendre des compléments, même alimentaires, pour avoir des doses très importantes. Un petit bonus. Ça ne va pas empêcher la DMLA, mais ça va peut-être la ralentir, qu'on conserve une acuité la plus longtemps possible.
Et désolé, un régime riche en carottes, ça ne va pas améliorer la vision. On le dit ça parce que la carotte, le rétinal, ça intervient dans la régénération de cette, au départ, je vous avais dit, la petite molécule qui change de configuration. Et pour qu'elle revienne à son état basal, on a besoin du rétinal. Rétinal, c'est une petite molécule qui se retrouve dans les carottes. Mais on a un stock. Ce n'est pas quand on en a plus, on verra mieux.
Et est-ce que l'œil, il est capable d'évoluer avec le temps ou avec même simplement l'évolution humaine, de devenir de plus en plus résistant face aux différents obstacles qu'il peut croiser ? Est-ce que par exemple, on peut imaginer qu'avec le temps, l'œil va s'adapter aux écrans et devenir résistant ?
Ça va mettre des nombreuses années, malheureusement, on ne sera plus là. C'est l'évolution, on en revient à Darwin, certainement, qu'on sera capable d'évoluer, mais ça se fera sur des dizaines et des dizaines d'années.
J'allais dire que quelquefois même on hâte l'évolution parce que maintenant on met des puces hein, au niveau de la rétine. Hein, on est là pour transformer.
Alors après, c'est l'homme artificiel. Enfin,
c'est Steve Austin, ceux qui connaissent. Mais...
C'est ça, c'est.
L'homme qui valait 3 milliards.
Oui, on en est où d'ailleurs aujourd'hui au niveau de l'évolution sur des technologies qui peuvent rendre l'œil encore plus performant, des choses qui paraissent d'être du futur mais qui finalement commencent à arriver.
Alors, juste pour l'anecdote, y a des golfeurs qui ont été dopés et classés comme dopés parce qu'ils mettaient des lentilles colorées, par exemple, où on voit mieux le contraste. Donc, il y a de tout temps, on essaie d'améliorer la vision, mais sinon, en termes de chirurgie, le mieux est l'ennemi du bien. Et moi, je me souviens d'une patiente que j'avais opérée qui avait 20 dixièmes. Une discrimination, mais c'était une époque où la télévision n'était pas aussi performante et elle voyait les pixels à la télévision. Et donc, attention à l'ennemi qui met du bien. Mais sinon, en chirurgie, on commence à mettre des prothèses au niveau de la rétine, mais pour l'instant, c'est juste un signal lumineux que l'on transmet. Il n'y a pas du tout le codage que je vous expliquais. Mais dans les années à venir, probablement.
Petite parenthèse, juste parce qu'on parlait des technologies qui permettent d'améliorer la vision. Je sais pas si on parlait de technologie, mais c'est une innovation. Les lunettes anti-lumière bleue, est-ce que c'est vraiment efficace?
C'est parti un peu de la même théorie dont parlait le professeur, c'est-à-dire que la lumière bleue à une certaine longueur d'onde serait toxique pour la rétine, d'où la théorie que le cristallin, la cataracte, protégerait notre rétine. Donc voilà, il y a des industriels qui ont dit, si on mettait ce filtre, est-ce que ça protégerait un peu notre rétine à long terme? Alors, il n'y a pas une certitude totale, mais il y a une tendance qui nous disent ça ne fait pas de mal. Mais attention, notamment chez les enfants, la lumière bleue est aussi importante pour le développement de l'œil, donc il ne faut pas, il faut pas non plus penser que c'est...
Oui, c'est un principe de précaution. La lumière bleue est très toxique pour les cultures de cellules rétiniennes, très toxique pour les rats, mais c'est des animaux nocturnes. Et chez l'homme, c'est un principe de précaution.
Et la pire crainte à avoir vis-à-vis de sa vue, c'est bien sûr la cécité, devenir aveugle. Quelles peuvent être les différentes causes de l'absence de vue totale?
Pour une cécité, déjà, il faut avoir perdu donc les deux yeux. Donc, il faut avoir... on peut avoir des glaucomes qui peuvent nous rendre, mais alors dans des stades très avancés. Normalement.
Glaucome, c'est trop de tension dans l'œil.
Trop de pression, donc ça va appuyer sur notre nerf optique, notre câble qui envoie les infos au cerveau. Et si notre câble, il n'a plus de cellules, il n'a plus d'épaisseur, il n'y aura plus de signal qui sera envoyé à notre cortex occipital. Voilà, donc c'est des cas extrêmes. Bien sûr, ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité.
Il y a des maladies héréditaires, par contre. Hein.
Le glaucome, c'est héréditaire, par exemple?
Oui, une fois sur deux, c'est transmis. Mais il y a aussi les maladies rétiniennes, ce qu'on appelle la rétinopathie pigmentaire, qui peuvent quelquefois conduire à la cécité absolue, quoi. C'est sans lumière. Souvent, on a des pathologies qui diminuent la vision, mais on garde toujours une certaine autonomie visuelle. Mais il y en a certaines, comme vous le dites, qui conduisent à la cécité.
Et qui peuvent être aussi parfois dégénératives, c'est-à-dire on est avec une vue qui, a priori, est en bonne santé, et puis petit à petit,
exactement,
ça diminue. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, les maladies.
Souvent.
Au-delà des maladies, est-ce que parfois aussi peut y avoir des chocs ou des blessures qui peuvent entraîner? Enfin, ça se passe comment? Ça va être directement sur l'œil ou sur le cerveau même?
On a un message à faire passer, il faut mettre ses lunettes de protection quand on bricole, parce qu'on voit trop souvent encore des clous, de la ferraille à l'intérieur de l'œil, donc qui a traversé la cornée, qui a traversé la coque de l'œil, la sclère, qui se retrouve à l'intérieur et qui peut engendrer décollement de rétine et perte définitive de la vision. Donc voilà, absolument bien protéger ses yeux, on en voit encore trop souvent. Et puis après, effectivement, des traumas crâniens, on peut avoir si on lèse notre partie arrière de notre cerveau, on peut voir des cas comme ça.
Oui, des cas rares où le nerf peut se couper, hein, un gros choc. Hein, donc s'il est coupé...
Oui, c'est la moindre partie de l'œil endommagée, entre guillemets, définitivement, ça conduit automatiquement à une perte de la vue, où il y a quand même...
Heureusement.
On peut voir avec certaines parties qui sont plus...
La partie antérieure, ça va à peu près. Dès qu'on arrive un peu plus au fond, c'est plus difficile.
Donc toutes les parties qu'il ne faut absolument pas endommager, ça va être quoi? Ça va être le nerf optique.
Nerf optique et la rétine, on a des opérations, mais c'est complexe. On va dire, même si les greffes de cornée, c'est complexe, mais ça se change et il y a des bons résultats. Cristallin, c'est l'opération de cataracte, ça se change. L'iris, on peut avoir des artistes artificiels, mais tout ce qui est segment postérieur, ça va être plus
problématique.
Problématique, ouais.
Et est-ce qu'il peut exister parfois des cécités provisoires de perdre sa vue à un certain moment, puis finalement, soit de la retrouver, soit simplement de se dire que c'est pas grave et qu'on peut faire une opération et modifier ça.
pas grave, je sais pas, mais en tout cas, il faut consulter si on a une perte de vision temporaire. Ça peut être des signes d'AVC si ça dure quelques minutes.
Accident vasculaire cérébral.
Voilà. Voilà, donc ça, c'est aux urgences tout de suite. Et puis après, on peut avoir des névrites optiques, on peut avoir. Il y a des choses qui se soignent, heureusement, mais il faut consulter. Il faut pas se dire ça va revenir dans 10 minutes et je croise les doigts.
À part si c'est en vous levant brusquement, ça, tout le monde fait l'expérience. Oui. Hein, oui. Et là, hop, on voit plus rien. Consultez pas pour ça, sinon là, ça va exploser aux urgences.
Mais oui, l'hypotension orthostatique, c'est quand on se lève trop vite et qu'il n'y a plus de
sinon,
sang
oui,
dans le cerveau.
Une perte totale d'un œil et qui récupère, il faut consulter.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus à notre micro. Je rappelle, Jean-Claude Quintin, que vous êtes chef du service ophtalmologie du CHU de Caen. Et Benoît Gandon, vous êtes ophtalmologiste à l'hôpital de Falaise. Merci encore et bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec le Dôme qui propose demain un atelier consacré à l'exploration du scan 3D. Le but est de découvrir comment donner naissance à des jumeaux numériques d'objets physiques. Pour cela, apporter un objet et personnaliser-le. Cet atelier, c'est demain de 14 à 16 heures. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, rendez-vous sur le site ledôme.info.
Et cette fois-ci, on ne vous recommande pas un, mais trois documentaires consacrés à l'Arctique et à sa confrontation au changement climatique qui lui fait entre autres subir une fonte des glaces. Ce sont donc 3 heures de plongée au cœur d'un monde polaire en pleine mutation que vous propose Arte. L'Arctique, une région bouleversée, c'est samedi prochain à 16h50.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel à la technique aujourd'hui. C'était le dernier C'est pas faux de 2023. On se retrouve donc après les vacances et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Dans quelques instants, rendez-vous avec Johan pour La Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.